Notre programme. Notre programme consiste à essayer de regarder ce qui se passe au fond de nous. Dans cette limite, c'est notre sujet du lundi. Le lundi, on regarde plus particulièrement une frontière particulière qu'il y a en nous. Cette frontière qu'il y a entre la vie spirituelle. Dans notre âme pneumatique. Pneuma, ça veut dire esprit. Pneuma, ça veut dire donc esprit, hein, en grec. Et on dirait en français spirituel, si vous voulez. L'homme, il est animal. Il a une partie en son âme, en sa chair, en son âme, l'âme qui assume son corps, une partie qui est, comme pour les plantes, il y a des gens qui vivent comme des légumes, hein? Leur âme est végétative, notre âme à nous, elle est végétative, elle est, le point de psychique, hein? Elle est psychique, et elle est pneumatique. Voilà. On peut vivre comme un légume, on peut vivre comme une bête, on peut vivre comme un homme. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et vous voyez, par exemple, quand quelqu'un ne vous fait pas confiance, vous aimez beaucoup quelqu'un, vous avez beaucoup investi, vous êtes battu pendant 10 ans pour essayer de le conquérir, de passer toujours devant, de faire tous les sacrifices que lui, il n'en fait jamais. C'est-à-dire, vous tous, quoi. Bon. Hein? Et puis, au bout d'un certain temps, il n'a aucune gratitude, rien du tout. Il vous trahit, cette brute. Hein? Vous faites des millions de gestes, puis aucun. Et en plus, il vous humilie, il vous trahit, etc. C'est horrible. Alors, quelqu'un que vous aimez, à qui vous, de quoi vous avez beaucoup donné, quand il ne vous fait plus confiance, il y a un phénomène d'inhibition. C'est connu ça, il faut savoir ça. Hein? Le phénomène d'inhibition provoque le repli sur soi. Le phénomène d'inhibition, c'est ça qui est inhibé. C'est une problématique. On a tendance, si l'inhibition est très forte, on devient un légume. C'est ça la dépression. Hein? Parce que quand on ne vous fait plus confiance, et un enfant c'est pareil, quand on ne lui fait plus confiance, il y a un phénomène d'inhibition qui se produit. Hein? Alors, quelquefois, on se sent paralysé, on ne peut pas. Il faudrait que je fasse mes papiers, il faudrait que je mette en ordre mes papiers. Mais je sais pas, je n'arrive pas. C'est terrible, c'est idiot, un quart d'heure. Il y a un phénomène d'inhibition. Parce que tout ça, à chaque fois que vous êtes confronté à un phénomène d'inhibition, c'est que quelqu'un ne vous a pas fait confiance. Quelquefois, c'est vous-même qui ne vous faites pas confiance, mais ça, en général, c'est second. Hein? Donc, ce que nous regardons le lundi, je me rappelle, n'est-ce pas, parce que je vois qu'il y a l'équipe de Paris là, qui ne sait pas ce qu'on fait le lundi. Donc le lundi, on regarde plus particulièrement cette frontière en nous entre le point de vue psychique, et le point de vue pneumatique. Alors le point de vue pneumatique, il a trois direction, la direction de la vie contemplative par l'intelligence du nous. Nous, c'est un terme grec qui veut dire l'intelligence dans sa partie la plus élevée, celle qui est capable de contempler. La partie noétique de l'intelligence qui fait que tout homme, s'il veut être un homme, il doit être contemplatif. Si vous n'êtes pas contemplatif, c'est l'avantage de cette direction-là. Il y a trois directions. Première direction, la voici, c'est la partie noétique, l'intelligence. Si vous voulez savoir si cette frontière n'a pas été franchie et que vous êtes plutôt ou dans le point de vue du légume ou dans le point de vue de l'animal, c'est est-ce que je suis contemplatif ou pas. Si je ne suis pas contemplatif, c'est que je n'ai pas atteint le niveau de la vie pneumatique en mon âme. Donc je n'ai pas encore atteint en moi l'humanité. Hein. Parce que par le point de vue de l'amour, je ne peux pas discerner. Le seul lieu où je peux discerner, c'est dans la direction de l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est spécifié. Tout est déterminé dans notre vie d'intelligence. L'intelligence est du domaine est relative à la vérité et à la lumière. Donc si on veut un discernement sur notre maturité personnelle, eh bien c'est du côté de l'intelligence qu'il faut regarder. Si on n'est pas contemplatif, vous voyez bien que la contemplation n'a rien à voir avec le point de vue religieux, c'est humain, c'est tout. Si je veux être humain, je deviens contemplatif. Donc je suis capable de intus legere. Intus legere. Je suis capable, quand je suis face à une réalité, une autre personne, moi-même, n'importe quelle réalité, de lire legere, intus à l'intérieur de cette réalité pour voir son essence, son être. Je ne m'arrête jamais à l'extériorité, aux apparences. Quelqu'un qui juge, c'est quelqu'un qui n'est pas humain. Ça veut dire qu'il n'est pas contenté. Quiconque juge, hein, d'après les apparences, vous voyez quelqu'un et vous dites « Oh, la première fois que je vous ai vu, j'ai tout de suite vu que vous étiez ceci, ceci, ceci et cela, 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 cela et cela. » Et au fur et à mesure que j'avance, 2 ans, 3 ans après, je m'aperçois que ma première intuition était bonne. Ça, c'est drôlement emmerdant. Hein, parce que justement, le premier contact est toujours à l'extériorité. Et donc, si au bout de 3 ans, tu t'aperçois que c'est ta première intuition qui était exacte, ça prouve que c'était uniquement métaphysique ton affaire. C'est pas contemplatif. Combien de gens font comme ça? Et nous aussi,
Il y a quand même des gens.
L'intuition, c'est.
Les gens.
Ah oui, sauf vous, bien sûr. Oui, on sent le sens, le sentiment, ce qu'on ressent, les impressions, toujours au niveau psychologique. Parce que l'intelligence contemplative, elle reçoit quelque chose qui est plus grand que... Tout de suite, vous rentrez à l'intérieur, vous saisissez le mystère de la personne. Alors, elle est plus grande que vous. C'est pour ça que l'amour est possible. Voilà le deuxième aspect. L'amour est possible. Donc la deuxième direction, qui est celle de l'amour, nous l'avons vu l'année dernière... comment, justement, c'est ce tableau-là, donc, hein, le PPP 1, comment les perturbations, justement, donc, du péché, du mensonge, viennent perturber le point de vue de l'amour, du cœur. La troisième direction, c'est la mémoire. C'est la mémoire. Bon, mais vous voyez, je suis en retard dans mon programme. Parce que nous avons pour but de regarder cette direction de la mémoire ontologique et dans la frontière au niveau de la mémoire entre le point de vue donc de l'âme psychique et de l'âme pneumatique. Nous sommes en retard, pourquoi? Parce que nous avons investi donc l'année dernière dans le point de vue donc des blessures dues à l'amour, comment sortir par le point de vue de l'adoration et du pardon. On avait toute la technique, tous les blocages, tous les trucs. Ça devient très complexe dès qu'on est dans le lien avec le point de vue psychique, parce que le point de vue psychique est très anarchique. C'est en même temps très complexe, et finalement assez simple aussi, quand même. Hein? Heureusement. Sinon, on n'y comprendrait rien. Le but, c'est de comprendre, justement. Mais avant d'en arriver au point de vue de la mémoire ontologique, je suis bien obligé de regarder le point de vue de la conscience de culpabilité. C'est ce que nous faisons depuis quelque temps. Je pensais le faire ça en une fois, mais je vois qu'au bout de la sixième fois, on y est encore. Donc, c'est pour vous dire que tant qu'on n'a pas regardé ce point de vue donc, du sentiment de culpabilité et la manière dont le sentiment de culpabilité qui est ici, d'un point de vue psychologique, peut mûrir en conscience de culpabilité, vous voyez, l'intelligence va assumer le point de vue psychologique pour faire qu'il y ait la conscience de culpabilité. Cette conscience de culpabilité va donc avoir deux possibilités d'induction dans notre équilibre psycho-spirituel, le point de vue positif, le point de vue négatif. C'est ce que nous devons voir aujourd'hui. On a déjà vu le point de vue positif, le point de vue négatif du sentiment de culpabilité. Donc aujourd'hui, on regarde la conscience de culpabilité dans son aspect positif, dans son aspect négatif, si vous voulez bien. Voilà, donc nous prenons ce tableau-là et celui-là. Et sur le tableau qui est là, nous ne regardons plus le processus du sentiment de culpabilité, mais celui de la conscience de culpabilité. On avait commencé ou pas? Je ne me rappelle plus, je suis désolé. Mais... D'accord. Alors, si vous voulez suivre la conférence, supposez que vous êtes distrait pendant 5 minutes et que vous voulez rattraper le wagon. Alors, nous lisons ici les points de vue de la conscience. Nous avons vu les trois fois précédentes le sentiment de culpabilité. Nous regardons la vraie conscience, la vraie culpabilité, une culpabilité assumée par le point de vue spirituel, et qui est le point de vue de la conscience de culpabilité. Nous regardons d'abord l'aspect donc, de la définition. La définition du sentiment de la conscience de culpabilité. Dans la conscience de culpabilité, la vraie culpabilité, c'est que je prends conscience et j'éprouve, je reçois le point de vue de la faute, de la culpabilité, non pas à partir de l'impression que j'en ai, ça on finira par le savoir, pas du tout, l'impression que j'en ai, c'est pas à partir du vécu, à partir des retombées affectives, blocage, inhibition ou quoi, c'est au-delà de ce que je ressens. Il faut que je sois capable de faire abstraction de ce que je ressens sur ma propre faute, sur ma propre culpabilité, et que je sois capable de faire en sorte d'être contemplatif et de regarder la réalité en face. Et dès que je regarde de manière contemplative la réalité en face, je ne ressens rien. C'est objectif. C'est pas froid, mais c'est objectif. Alors, c'est pas une impression. Il n'y a pas de relance, si vous voulez. Donc, c'est dans mon âme pneumatique, intellectuelle, éclairée par l'esprit humain, que je regarde ce que j'ai fait, ce que je suis. C'est pas du tout le sentiment, l'impression que j'ai vraiment nul. Le sentiment de culpabilité, c'est la manière non du sien, si vous voulez. Hein. Et c'est pour ça qu'on va parler de conscience morale, d'ailleurs, parce que, on a, bien sûr, on n'a pas fait des choses toutes. On n'est pas des saints, on n'est pas parfait. Et il est bien évident qu'on a posé des actes hein, de refus, d'omission, etc., divers. Et en raison de quoi, il y a quelque chose dans notre mémoire spirituelle et dans notre intelligence spirituelle, l'intelligence est toujours spirituelle, et qui me font comprendre qu'effectivement, il y a des actes que j'ai posés et qui sont des actes à travers lesquels il y a eu un ensemble de choses qui n'ont pas pu s'épanouir ou se réaliser. Et il faut que je sois capable de voir quoi exactement. Ce n'est pas vague. Donc, tout ça pour dire que par rapport au sentiment de culpabilité, ce n'est pas un état subjectif. Oh, on n'est pas en pleine subjectivité. Ouais, j'ai l'impression, je suis sûr que j'ai l'intuition que... Non, non, non. Mais c'est un état objectif. Vous voyez bien. Voilà. C'est un état objectif à connotation morale qui résulte d'une action que nous avons posée. Nous avons posé des actes, soit quand nous étions petits, soit quand nous étions vraiment minuscules avant la naissance, soit quand nous étions plus âgés. Nous avons posé des actes qui ont une connotation morale et qui ont une connotation morale parce que ces actes, nous avons posé à partir de l'inscription initiale de la présence de Dieu au centre de notre âme. Il y a des actes qu'on commet primo primi. Par exemple, dans le sommeil, j'étrangle ma grand-mère. Ce n'est pas un acte à connotation morale. Mais par contre, il y a des actes que j'ai commis quand j'avais l'âge de 1 an, à partir d'un qui ont jailli à partir d'un état pleinement éveillé où j'étais pleinement conscient, autant que je pouvais l'être à l'âge de 1 an, et Dieu sait qu'à l'âge de 1 an, il y a une conscience très très claire de cette espèce d'innocence dans laquelle je suis, et d'alliance avec les profondeurs de quelque chose qui ne doit pas être perturbé ni éclaboussé par le mal. C'est à partir de cette alliance, si vous voulez, où Dieu s'inscrit au fond de moi, dans mon élan initial de vie, que je pose cet acte. Et bien évident que quand on a 40 ans, quand on en a 30, c'est de moins en moins. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, on vit de manière très psychologique, c'est de moins en moins qu'on pose des actes à connotation morale. Parce que les actes qu'on pose, on les pose de moins en moins à partir de cette alliance centrale, consciente, avec cette innocence, cet élan, cette présence de Dieu en nous. Un acte n'a une connotation morale qu'à partir du moment où je le fais avec cette vision claire que c'est que je détruis, que j'éclabousse quelque chose de l'alliance avec le bien absolu qui est au fond de moi et qui, jusque-là, fait que je fais tout à partir du bien, à partir de Dieu qui est au fond de moi. Cette alliance initiale que nous appelons quelquefois l'innocence divine. Voilà. Et donc, la vraie culpabilité, la conscience de culpabilité ne peut pas apparaître si on ne voit pas, on ne comprend pas que ce qui est concerné, c'est pas nous, c'est pas notre être, c'est pas ce qu'on ressent, c'est pas notre honte, ni notre intuition d'être nul, mais c'est la relation que nous avons avec Dieu. Avec cet amour absolu, cette loi de l'amour éternel. C'est la relation avec Dieu qui est concernée. Et donc, si quelqu'un qui ne verrait pas qu'il est dans le péché, il ne peut pas avoir de conscience de culpabilité. Il n'apparaît qu'avec, quand surgit le point de vue du péché, de la rupture avec la violence. Vous savez, pas besoin de que je fasse un dessin, un nombre de gens considérables, et nous aussi, quand nous sommes dans un certain état d'inhibition, et ben on se dit, je pèse pas, quoi, j'ai pas de péché, enfin, j'ai jamais péché, je traîne comme ma grand-mère, etc. Les autres, oui, pas d'accord, mais moi, non. C'est évident, il y a des gens qui disent, non, le péché, moi, pas de péché. Je pèse pas. Il y a plein de gens qui sont comme ça. C'est pour ça que c'est génial la confession, parce que vous voyez, j'accuse personne, hein, mais il y a des. Moi, je vous assure que j'ai aucun mal à confesser mes péchés. Hein. C'est pas pour me gonfler que je dis ça. C'est le comble, vous voyez. Mais on voit très nettement certaines personnes qui viennent, qui disent, ben non, je suis pas vraiment péché, je fais tout, quoi. J'ai fait la communion, la confirmation. Je suis désolé, mais c'est incroyable. Je sais pas, vous voyez bien ce que je veux dire. Comment ça, quand c'est existant, c'est fou là. Ou alors, toujours je réponds, ben alors, au fond, vous êtes un saint, alors. Ah ben, je dis, alors, priez pour moi. Eh oui, c'est normal. Voilà. Donc, c'est à partir du péché. Et le péché, c'est lié à l'alliance avec cette vocation, cette prédestination à la sainteté, à, le fait d'être toujours à l'intérieur, cette présence de Dieu qui ne nous a jamais quittés. Et qui ne quitte jamais, quoi que nous fassions, ce qui est au centre de nous. Donc cette conscience de culpabilité, c'est un état objectif, réel, il touche la relation à Dieu. Et il est évident que cette relation à Dieu qui a été coupée, si vraiment je dois en prendre conscience, vous vous rendez compte par l'expérience que vous avez beau faire tous les efforts que vous voulez, elle ne viendra pas à vous spontanément, cette prise de conscience du péché. Il faut, pour que le péché vienne à votre conscience et fasse naître, vous fasse sortir du magma du sentiment de culpabilité, il faut qu'il y ait une révélation de Dieu lui-même qui, à partir du lieu où il est présent, vous illumine vous-même de l'intérieur sur le péché que vous avez fait. Et vous ne pouvez pas avoir de conscience de culpabilité, donc de maturité humaine sur votre intériorité par rapport à votre état réel, si Dieu lui-même ne vous révèle pas ce péché. Alors là, je vous conseille de lire le chapitre 1 à 8 de l'Épître aux Romains. On ne va pas le lire ensemble, lisez-le, c'est un très beau texte à lire pendant le début du carême. Vous comprenez que la révélation de la loi, c'est par la révélation de la loi, cette révélation doit être intérieure à vous-même, c'est de l'intérieur qu'il faut que vous lisiez cet Épître aux Romains, où à partir de votre innocence divine, vous laissez cette parole que vous lisez faire écho à la présence de Dieu, qui est au fond de vous et qui dit ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains et révèle la loi, c'est-à-dire la révélation des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est quand même quelque chose de très très fort. La Torah, les lois, la loi est venue pour nous faire voir que nous sommes des êtres qui mettons la mort. Nous sommes des êtres de mal, des êtres pécheurs. Et la loi ne nous sauve pas, la loi révèle notre péché. Il faut déjà avoir une vie humaine, naturellement non inhibée, pour laisser cette révélation de Dieu à partir de nous sur notre péché. Il ne faut pas être bloqué déjà sur le point de vue humain. Seul Dieu peut révéler le péché. Donc vous voyez, c'est indépendant de toute idéologie, philosophie, religion, etc. C'est naturel. C'est Dieu lui-même qui révèle que ce qu'on a fait nous a vraiment cassé quelque chose. C'est irréparable quant à nous. On ne peut pas réparer nous-mêmes. Alors évidemment, c'est le chrétien, c'est nous les chrétiens, tout ça on vit de manière beaucoup plus consciente. Parce que si vous êtes un croyant, par exemple, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va découvrir qu'il a fait une infraction, qu'il a fait 170 km à l'heure en plein village, quoi. En général, il va découvrir son infraction de manière un peu intelligente, seulement si les flics l'arrêtent. Sinon, pas vu, pas pris, donc j'ai pas fait de... c'est pas une infraction. C'est à partir des infractions que les gens qui sont incroyants voient leur péché. C'est à partir du point de vue de l'infraction. Donc vous voyez bien, tandis que c'est le croyant, c'est le péché qu'il voit. C'est de l'intérieur, c'est avec peine nécessité qu'il voit. Pour nous, c'est plus facile, c'est beaucoup plus conscient, vous voyez bien. Je crois que pour tout homme, Dieu donne cette grâce, déjà d'un point de vue natif, c'est-à-dire si on laisse Dieu faire, on a cette conscience de culpabilité. On peut accéder à l'état d'homme normal.
Mais il y en a qui se culpabilisent quand on est à travers. Après.
Alors justement, se culpabiliser, ça veut dire sentiment de culpabilité, c'est psychologique, se culpabiliser. Mais voir sa faute, c'est la conscience de culpabilité. Du moins, voir son péché. Plus exactement. Parce que voir sa faute, voir ce qu'on a transgressé, ouf! Tu te mets comme une limandre devant le flic. Transgression, oh, tu t'étales. Oui, je suis désolé, etc. Mais, légumes, tu vois ta faute, tu te culpabilises. Tu vois ton péché, tu es un homme debout. La différence entre la transgression, la faute et le péché, il faut comprendre ça, vous voyez. Ça, c'est très important de voir ça. Et dans l'éducation, précisément par rapport aux enfants aussi, vous voyez, la différence très grande entre la transgression, l'enfant, par exemple, il a besoin de connaître la transgression. Dans l'éducation, la transgression est quelque chose d'important. Ses parents vont lui dire, ne fais pas ça. Alors, l'enfant, bon, d'accord, ils ont dit, ne fais pas ça. Il faut qu'il le fasse quand même. Il faut qu'il fasse l'expérience de la transgression. C'est pas le péché, la transgression. C'est pas une faute. Il faut qu'il fasse l'expérience de la transgression parce qu'il va voir que s'il met la main sur le poêle qui est à peu près à chauffer en rouge, ça le brûle. C'est sûr. Et donc, il constate que ce que papa et maman ont dit est vrai. La transgression, c'est pas du péché, vous voyez. C'est pas vraiment une désobéissance. Il y a un état dans la désobéissance qui ne relève pas encore de la faute. Oui.
Par rapport aux chrétiens, la faute, c'est uniquement par rapport aux 10 commandements, en gros. Pour le chrétien.
Ah ben pour tout homme, hein, il y a le péché, pas seulement pour le chrétien, pour tout homme, il y a la transgression, la faute et le péché. Donc la transgression, c'est par rapport à une loi extérieure, le fort externe. Le code de la route, c'est entendu à la maison, il ne faut pas parler à table, hein, au moment des informations, etc. Ça, c'est la transgression. La transgression, c'est une loi extérieure. La faute, c'est par rapport à une loi morale. Une loi intérieure, c'est bien ou c'est mal?
La transgression, c'est légal.
La transgression, c'est le point de vue du légalisme, oui, de la loi extérieure. La loi morale détermine le point de vue de la faute. Et l'alliance avec Dieu détermine le point de vue du péché. C'est-à-dire, tu fais tes actes avec Dieu, en Dieu, par Dieu, dans cet amour absolu, dans cette sainteté initiale, dans cet élan, dans cette vocation, dans cette loi éternelle que l'enfant, quand il a par exemple 7, 8 ans, 10 ans, est très 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 conscient de ça, quand il est tout seul dans sa chambre, quand il se recueille en lui-même, qu'il soit chrétien ou pas, il veut être un prince, un roi fraternel en ce monde, comme un homme de bien partout sur la terre, etc. Tous nous sommes passés par là. Et c'est un état qui ne relève pas du christianisme, qui relève simplement de la nature humaine. Et si nous ne vivons plus comme ça, c'est tout simplement parce qu'effectivement nous avons commis péché sur péché. Et si nous ne vivons plus comme ça, c'est que nous sommes vraiment dans le péché. Et donc, les actes qu'on commet sont à chaque fois des actes de péché très graves. Oui.
Quelle distinction, qu'il y a vraiment une distinction claire entre faute et péché, puisque faute,
oui,
c'est revenir à la transgression de la morale, mais c'est plus la morale, mais c'est Dieu qui l'a donné.
Oui, mais c'est une question de vocabulaire, c'est-à-dire il y a des limites. Quelquefois, tu commets des choses qui relèvent du corps, du fort externe. Tu comprends que si la loi, elle dit, il y a des choses qui, tu transgresses la loi, tu transgresses pas la loi quand tu fais un avortement. C'est pas une transgression, mais c'est une faute, hein, parce que quand même, c'est pas bien de faire un avortement. Et c'est sûrement un péché, parce que...
Entre
le péché et la faute. Eh bien, le bien et le mal, c'est la faute. C'est objectif, le bien et le mal.
Ça renvoie une loi morale
derrière. Non, pas forcément. Quelquefois, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal. Il y a des gens, par exemple, qui sont complètement séparés de Dieu, mais qui restent encore des gens qui ont le sens de l'éthique. Hein. Il y a quelque chose qui relève du bien, de la vérité, de l'amour, etc. Mais ils sont... Non, ils ne sentent pas une cause finale nécessitante absolue. Non. Le bien, c'est quelque chose d'objectif.
Ça vient de Dieu, même s'ils n'en ont pas conscience.
Oui, mais ce n'est pas au même niveau. C'est au niveau moral. Le niveau spirituel, c'est cette alliance de l'être profond avec son Créateur dans l'amour. Cette innocence divine qui est en nous, c'est Dieu qui doit agir en nous. Tout ce qu'on fait de bien, c'est Dieu qui le fait. On le fait avec lui, on veut être un saint. Celui qui est moral, qui cherche à faire le bien, il ne cherche pas à être un saint. Il cherche à être un homme qui essaye de ne pas faire le mal et de faire le bien.
Donc il n'y a pas de différence de nature, mais différence de degré.
C'est une différence de nature et de degré. Parce que quand tu fais quelque chose avec Dieu, ça n'a plus du tout la même nature. Et c'est conscient. Le petit enfant, c'est conscient quand même que le petit hindou, le petit, il veut être un roi fraternel. Tu vois bien ce qu'on a vu en éthique l'année dernière. Et à un moment, il saisit cette loi éternelle au fond de lui, dans son cœur. Et ça y est, il comprend qu'il est fait, fabriqué. C'est ça qui veut faire le bien partout. Il en rêve la nuit même quelquefois. Il fait des rêves merveilleux. La petite fille, par exemple, elle va être une espèce de princesse toute pure, etc. Qui fera le bien partout, qui rayonnera, tu vois, dans la beauté. Et c'est quelque chose qui dépasse complètement toutes les capacités humaines. C'est quelque chose qui relève du divin. Ça se transpose en notre souvenir par des rêves. Mais c'est quand même un état qui est conscient. À un moment, on veut être un saint, quoi. Un enfant, tu dis à un enfant qui a 8, 9, 10 ans qu'il faut être un saint, pour lui, c'est normal. même si ses parents sont complètement athées, complètement fous, etc. Quelques. Et le divin, ça n'a rien à voir avec le point de vue du bien et du mal moral. Ça, c'est humain, ça. Mais on sait très bien, nous, que tout ce qui est bien vient de Dieu. Mais la manière dont on enracine son acte n'est pas le même, d'accord? Alors, voyez bien que le péché, au fond, bah, c'est que le bien ou le mal, ce que j'ai fait au prochain, dès qu'on prend conscience du péché, on comprend que le mal que je fais au prochain, eh bien, au fond, c'est à Dieu que je le fais. Voilà. Bon, je vais vous donner, par exemple, un petit exemple. Bon, je pourrais vous le donner à la fin, si vous voulez, vous le prendrez, ce tableau-là, vous le regarderez vous-même, pour voir la différence. Oui, c'est un tableau merveilleux, ça. Qui est... Mais on regardera plus attentivement quand on sera tout à fait dans le point de vue de la mémoire. Vous avez l'âge de 0 ans, n'est-ce pas? Alors vous êtes enraciné, et puis vous démarrez. Vous avez la naissance, l'âge de 2 ans, on a vu que l'âge de 2 ans était très important. De 2 à 6, on va voir que c'est très important aussi. Bon, toute la période de l'adolescence, de la puberté, oh là là. Et puis là, bon, vous avez 30 ans. Je m'excuse, Madame Thierry, j'ai pas assez de place pour aller jusqu'à 52 comme vous. Bon, alors donc, vous êtes ici, voilà. Le temps, voilà le bateau, n'est-ce pas? Votre bateau, c'est-à-dire votre l'eau a coulé, l'eau a coulé, et voilà, vous naviguez là-haut, n'est-ce pas? Le temps, sur la base, j'allais dire, de votre humanité. Il y a un océan merveilleux, un déluge extraordinaire de péchés. Vous relisez toute l'histoire de Noé en fonction de ça, vous verrez que c'est pas mal. 40 jours, hein, c'est pas comme ça, ça a coulé. Donc, vous avez 40 ans. Alors, il va y avoir des choses qui vont se réaliser ici. Vous allez voir qu'il y a un écueil ici, un écueil là. Oh là là, je suis agressif tout le temps avec je ne sais pas qui. Je suis paralysé avec je ne sais pas quoi. Mais donc vous allez vous rendre compte que bang, je me casse la figure. Alors là, ici, j'ai un accident un jour avec quelqu'un. Boum. Je ne sais pas, il faudrait que je prenne des exemples, mais enfin, vous n'avez pas besoin de... Et à bien regarder, si je suis... humain, si mon intelligence par rapport à moi-même, si je suis contemplatif par rapport à moi-même, si je ne suis pas complètement idiot, si je ne suis pas inhibé, je vais me rendre compte qu'en réalité, tout ça, ça se relie. Tiens, ici j'ai un autre type d'écueil. Tout ça, ça se relie à quelque chose qui est très profond. Ce type d'écueil, mais ça recommence exactement la même chose. Il m'est arrivé un accident analogue, dans des circonstances différentes, mais c'était analogue à ce que j'ai fait là. J'ai reproduit tout simplement quelque chose qui correspond à un acte que j'ai commis là. Mais à bien regarder, mais c'est analogue tout à fait à un accident qui m'est arrivé vers l'âge de 8 ans. Donc, si vous voulez... Donc, ici, il faut savoir qu'à l'intérieur de nos actes, il va y avoir trois types de racines. La racine personnelle, la racine maternelle, la racine paternelle. Ça, il faut savoir. Et à bien regarder tous les problèmes qu'on a, les blocages, etc. Ah, on est furieux, on boude, du coup, on ferme la porte, on s'enferme chez soi, que personne ne rentre, hein, je ne répondrai pas. Finalement, je réponds. À bien regarder, je me bute sur rien du tout. Mais si ma réaction est tragique, dramatique, etc., c'est tout simplement parce que c'est le flux d'émotivité, si vous voulez, extrêmement fort, qui correspond à tous les actes analogues depuis ma naissance. Mais, depuis ma naissance, et avant ma naissance, depuis ma conception, Et à ma conception, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à ma conception, je suis dans l'innocence divine, n'est-ce pas? Dieu se présente à moi directement sous le visage de mon père, de ma mère et de mon propre être. Donc ma racine personnelle, ma racine maternelle, ma racine paternelle sont un unique visage de Dieu. Et je suis totalement uni à Dieu, à moi-même, à mon père, à ma mère, dans l'amour de moi, de mon père, de ma mère et de Dieu. Tout ça, ça ne fait pas quatre, ça fait un. C'est un séparé. Mais à partir d'un moment donné, très tôt dans ma vie, quelquefois, au bout d'un mois, deux mois, sept mois avant ma naissance, quelquefois. Mais ça peut être aussi à l'âge de 2 ans que le premier grand boom arrive. À ce moment-là, j'allais dire, il y a une dissociation qui se fait entre Dieu et puis l'amour de mon père. Alors que j'ai toujours vécu l'amour lié, Dieu et mon père, c'est la même chose. Dieu parle à travers mon prochain, parle à travers mon innocence divine, parle à travers ma mère. Et à un moment donné, il y a des événements qui font que ils se séparent. Moi, si, c'est ce que nous avons peut-être vu la dernière fois, remarquez bien, je crois, on en avait parlé plus ou moins. Moi, personnellement, si je peux réagir face à un événement de non-amour comme celui-là, ou bien positivement, ou bien négativement, c'est l'acte intérieur que je pose, ou bien dans mon acte intérieur, je me retrouve en Dieu pour retrouver mon père et ma mère, et puis finalement vivre le pardon, ce qui est facile à faire, l'acceptation et l'abandon, ou bien, et c'est possible, et même facile, et naturel pour l'enfant, ou bien il décide volontairement de séparer définitivement Dieu et de réagir violemment, de se venger contre son père, contre sa mère. C'est en tout cas chaque fois, mais c'est sa manière à ce moment-là de se séparer de Dieu. Il retrouve à ce moment-là son père dans la négativité et du coup il se sépare de Dieu. Et à bien regarder à chaque fois que je refuse l'autorité masculine, je parle que... Il y a quelquefois, nous, les masculins, nous avons un problème terrible par rapport à l'autorité masculine. Quelquefois, il y a des femmes aussi qui ont un problème. Hein. Il n'y a pas que les masculins. Hein. Eh bien, à bien regarder, ma conscience de culpabilité, ce sera quoi? Ce sera non pas de retrouver les moments analogues pour voir la blessure initiale, mais de voir que à chaque fois que je me bagarre contre... je ne sais pas, vous prenez n'importe quel prénom, hein, contre Thierry, contre Maurice, contre qui tu connais, toi, comme... Maurice, bon. Alors, c'est pas, en fait, c'est pas contre Maurice que j'en ai, c'est contre Dieu. Parce que je n'ai pas accepté à un moment de ma vie que Dieu, il m'a fait croire quelque part, Dieu, ça, c'est une manière de penser, hein, évidemment, après le péché, on pense comme ça. Dieu m'a fait croire que les hommes, mon père, ma mère, le masculin, le féminin et moi-même et Dieu, on était inséparés. Et puis, boum, j'ai reçu le contraire. Donc, je ne suis pas d'accord avec Dieu, je me révolte contre Dieu. Et comme le seul visage de Dieu, c'est précisément celui de du paternel, du maternel ou de moi-même, hein, d'ailleurs, alors, pour... dire à Dieu que je ne suis pas d'accord, c'est trop dur, alors je casse la gueule à mon père. Vous voyez bien, je refuse. Mais en fait, parce que le visage de mon père, c'est le visage de Dieu au départ. Vous le comprenez ça ou pas? Mais comme Dieu n'a pas de visage, je ne peux pas lui taper dessus, je tape sur mon père. Et quand je tape après sur mon mari, ou sur mon fils, ou sur mon grand-père, ou sur mon oncle, etc., parce que c'est lui qui... Alors à ce moment-là, je me rends compte, grâce à la conscience de culpabilité, qu'en réalité, je continue à taper sur la gueule de Dieu. Et c'est contre Dieu que j'en ai. Et à chaque fois que je mens, que je vole, etc., c'est directement Dieu qui est visé dans mon intention profonde, réelle, actuelle. C'est Dieu qui est visé. Ah, là, je commence à comprendre la vérité. C'est le moyen de sortir des sentiments de culpabilité. Quand je prends conscience concrètement que tel acte concret que je viens de faire, c'est contre Dieu. Et là, quand je le vois, quand je ne me force pas, sans forcer, hein, je le vois clairement. à ce moment-là, ça prouve que ça y est, j'ai atteint la lucidité contemplative qui convient. C'est sûr, devenir un homme ou une femme. Ça ne m'empêche pas de pécher, mais en tout cas, ça y est, je suis sorti du point de vue de l'animalité, du refus, du point de vue du repli sur soi, par rapport à mes actes. Alors aujourd'hui, vous le savez bien, qu'est-ce que proposent les gens, même les cathos sympas, c'est de revenir aux racines et puis de guérir. Ah, je vais vous guérir, voyez, vous avez eu un problème à votre enfance, qui était ça, vous êtes né, on voulait que ce soit une fille, vous êtes un garçon, depuis quelques-uns vous êtes pédé. Alors il suffit que vous acceptiez votre réaction négative par rapport à ça, ça ne vous guérit rien du tout. Il faut retrouver l'état initial où le visage paternel, masculin, féminin, le visage de l'unité des deux qui structure votre visage personnel est inséparé du visage de Dieu. L'amour de Dieu et l'amour de l'homme sont inséparés, révélation du Christ, inséparables. Et donc tous les actes que je pose contre mon prochain, en réalité, ce sont des actes concrets de vengeance contre Dieu, c'est ma manière de dire non à Dieu. C'est Dieu qui vient directement. Ah, quand je le comprends, ça. Jésus nous révèle ça. Mais Jésus nous révèle, mais je n'ai pas besoin de Jésus pour le savoir. Parce que c'est la réalité. Grâce à Jésus, ça va plus vite, si vous voulez. Mais il y a plein de gens qui le comprennent. L'hindouiste comprend parfaitement ça. L'hindouiste, il le comprend, hein. Il n'y a pas de Jésus pour lui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au petit déjeuner qu'on est beaucoup plus proche de l'hindouisme que du protestant. Beaucoup plus proche, hein. Alors ça, c'est absolument évident, hein. Alors faire l'œcuménisme avec l'hindou, c'est facile. Avec le luthérien, c'est impossible. On ne peut pas. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à l'œcuménisme catholique protestant. Je crois à l'œcuménisme à partir des racines. Ah oui, si je fais alliance avec Israël, hein, ça d'accord, je suis dans la bonne direction. Et si je veux faire alliance avec Luther, c'est psychologique. J'espère que vous comprenez. Alors, on peut retrouver Luther.
À ce moment-là, Luther.
Si Luther, parce que moi, je peux retrouver mes racines en Abraham, en Noé. Ça, ici, c'est un dessin de Noé que je viens de vous faire. Hein. C'est le dessin du déluge que je viens de vous faire là. Hein, l'alliance fondamentale.
Reviennent
à leurs racines en Israël, la foi. À ce moment-là, le communisme se fait automatiquement.
Les
orthodoxes sont assez proches de la tradition ancienne. Oui. Tout à fait. Donc le mode d'apparition. Mode d'apparition. Donc ce n'est pas comme dans le sentiment de culpabilité. La conscience de culpabilité n'est pas structurée à partir de l'impression que j'ai en disant « Ah, oh, je suis nul, oh là là, j'y arrive pas, oh, je suis agressif, oh là là, je suis zéro, oh, je n'arrive pas à avancer, oh, je n'arrive pas à... etc. Enfin, vous voyez tout le truc, tout là. Oh, c'est terrible et tout. Hein, c'est pas ce sentiment que je suis nul. Ouais, ça touche pas ça. Ça, c'est le sentiment de culpabilité, ça touche, hein, mode d'apparition. L'acte fondamental que je fais et qui sous-tend les actes concrets qui m'animent. C'est les actes que je pose. C'est pas mon être profond. Dans le sentiment de culpabilité, j'ai l'impression que je suis nul. Dans la conscience de culpabilité, c'est je vois que mon acte est un péché, mais que je suis un saint. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas des saints disent « Moi, je ne suis pas péché. Il y en a qui ont pire que moi. Donc, c'est la blessure de la relation d'amour avec le prochain, avec Dieu, qui vient briser mon désir perpétuel, initial et continuel d'aimer. c'est dans mes actes et dans ma relation concrète avec le prochain et avec Dieu, du coup. Et qui vient briser l'élan du désir d'aimer, de se donner, et secondairement, manifeste le refus d'être aimé et d'accepter d'être aimable. C'est facile à comprendre, remarquez bien tout ça. Donc, autrement dit, le conscience de culpabilité ne concerne pas, comme le sentiment de culpabilité, la personne, la nature humaine, ce que je suis, mais concerne les actes, ce que je fais, mes paroles, mes gestes, mon attention vis-à-vis de l'autre. L'autre, c'est celui qui est à côté de moi. L'autre, c'est Dieu qui est au fond de moi, au centre de moi-même. Donc, voyez bien. Donc, voyez bien que la blessure vous fait souffrir. La souffrance engendre à vous un sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité vous met dans un état très désagréable, en disant qu'est-ce que je suis mal. Je suis mal. Mon être est mal. Ça manifeste le point de vue de l'angoisse. Cette angoisse, du coup, ben, vous voulez vous défendre contre ça. Aujourd'hui, c'est terrible parce que les défenses, ce sont des neuroleptiques, des anxiolytiques, etc. Heureusement que dans les générations précédentes, il n'y avait pas tout ça. Et que du coup, on était obligé de remonter à quelque chose d'humain. Et grâce, et notamment parmi ces défenses, il va y avoir donc l'agressivité. On va avoir du coup des actes d'agressivité pour essayer de se débarrasser, pour se protéger. Et cette agressivité, du coup, nous montre à l'extérieur de nous-mêmes notre vrai visage, c'est que notre visage est mauvais, et va pouvoir faire apparaître la conscience de culpabilité. Donc voyez bien que la blessure, vous recevez une nouvelle blessure de non-amour. Vous êtes à nouveau déçu dans une attente vis-à-vis de celui qui est proche de vous. C'est normal que ça vous mette dans une situation d'inhibition, comme je vous l'ai dit, de défense, de repli sur vous, au fond. Et si l'autre recommence, prêt, attention, s'il recommence, je réagis immédiatement à agressivité, n'est-ce pas? Parce que forcément, la blessure me met dans un état de peur. Et dans un état aussi de convoitise. Parce que je désire autre chose. Alors, à ce moment-là, cette agressivité va, c'est ce qu'on va voir tout de suite, faire naître le point de vue de la conscience de culpabilité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'agressivité qui est source, qui nous permet de faire naître en vous, le point de vue de permettre en nous de faire naître le point de vue de la conscience de culpabilité. Oui, oui, oui.
Quand vous disiez que les catholiques, justement, avec les protestants, c'est plus difficile de faire une union avec les...
Oui, oui, non, c'est une boutade, oui.
Est-ce que les protestants disent en deux mots, justement, je suis mal?
Oui. Pour Luther, le péché a tout détruit. Le péché originel a fait que l'homme est détruit totalement. Il n'y a plus rien de saint en lui. Son intelligence n'est plus, absolument plus capable de vérité. Son cœur est totalement détruit. Son âme a fait partir toute présence efficace et féconde de Dieu. Il est tout entier transformé en péché.
Et puis une ontologie au sens où vous
entendez. Ah non, justement. L'innocence divine n'existe pas. Tandis que dans l'hindouisme, lui, il sait très bien que tu es cela, tu vois. Tu es une étincelle de Dieu, et ça, ton être le plus pur reste immaculé.
D'accord. Et par rapport à ce que cela, je veux savoir quelles sont les bases, les arguments, les fondements qui permettent de dire, en tant que catholique, que le péché originel a brisé le cœur, mais n'a pas brisé la faculté de chercher la vérité.
Oui, parce que tu vois bien qu'il suffit de relire la Genèse, et puis tu vois que Adam commet le péché originel, et que Dieu ne le détruit pas. Il fait alliance avec lui. Il fait alliance avec lui. La première alliance, la deuxième alliance, la première alliance de la création originelle, c'est immédiatement suite à la suite du péché, à une deuxième alliance, il fait alliance avec lui, et il lui dit, bon ben, tu feras pénitence, Dieu garde l'alliance, mais l'alliance avec Dieu n'est pas extérieure, l'alliance avec Dieu est intérieure. Donc Dieu reste présent, il reste présent par sa présence d'immensité puisqu'il te garde dans l'existence, il fait que tu continues d'exister, premièrement, il reste présent puisqu'il fait alliance, il te garde de l'image à la ressemblance de Dieu, le processus de l'image à la ressemblance de Dieu demeure, comme le Saint-Père le fait remarquer, tu vois, dans son commentaire que nous avons vu l'année dernière, après le péché, ce processus de l'image à la ressemblance de Dieu, donc cet élan de la loi éternelle reste au cœur de tout homme, cet élan, cette vitalité vers l'amour et la sainteté demeure, et enfin, la présence de la très sainte Trinité demeure aussi, c'est ce qui est manifesté par le point de vue d'alliance avec Adam et avec Ève, et qui est renouvelé après, à l'époque de Noé, et qui est renouvelé encore dans quelque chose de plus messianique.
Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas dit qu'on a, que le cœur a été en quelque sorte détérioré, brisé,
oui.
Mais que l'intelligence, elle, concerne sa capacité de...
Alors, pour Luther, notre cœur n'est pas seulement blessé, il est mort.
Et notre intelligence ?
Bon, prenons le cœur seulement. Trois positions. Le péché, première position. Le péché a tout détruit, notre cœur ne marche plus rien, aucune possibilité de faire un seul acte d'amour, de sainteté, rien du tout. Deuxièmement, notre cœur n'est pas du tout mort, il rêve, il garde sa vitalité d'amour. On constate hein, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais il est blessé, c'est difficile pour lui. Il y a des séquelles quand même du péché originel, il y a des petites brisures, hein, l'assiette est fêlée. La tête est fêlée. Alors c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre de la viande que de la soupe, parce que sinon ça passe sur la nappe. Alors, c'est pour ça que Saint Paul dit, bon maintenant, il ne faut plus prendre du lait, il faut prendre de la viande, solide. Hein? Vous savez ça dans les épîtres de Saint Paul. Bon, on est blessé. Mais ça ne nous empêche pas de manger dans l'assiette. Mais si tu choisis une nourriture différente, c'est tout. La chair du Christ. Hein? Bon. Troisièmement, lui au péché, il ne nous a pas blessé du tout. Moi, je n'ai pas fait ça, moi je suis très bien. Vous savez, dans les visiteurs, tu sais là. Comment elle s'appelle la Clodo là? Dans les visiteurs, vous n'avez pas vu le film les visiteurs? Hein? Je n'ai pas regardé la télé, c'est pas passé la télé, les visiteurs. Alors. Je sais tout. Ceux qui mènent une vie grotesque ont accès à pratiquement à tous les récepteurs. Alors, tu vois, ouais, moi j'aime, j'ai pas besoin de Dieu, tout ça, j'aime à folle, à fond. Pour moi, il n'y a que l'amour. Pas besoin de la religion, il n'y a que l'amour pour moi, ouais, l'amour. D'ailleurs, je suis peintre, alors... Alors, voyez bien, trois positions. Donc, c'est évident que cette position-là, elle est psychologique, quoi, hein, c'est clair. C'est vraiment se voiler la face. Cette position-là, elle n'est pas réaliste. Qu'on est entièrement incapable d'amour, c'est pas vrai. Qu'on a continué à aimer, ben, tu tombes amoureux quand même, quelquefois, l'amour, il te tombe sur le crâne. Ah, je l'aime, hein. Je l'aime. Une française, elle n'est pas blonde, elle n'est pas brune, j'aurais jamais cru ça. Quoi? Non mais je ne vise personne, personne ne vise. Donc vous voyez bien. Mais j'aime quand même, l'amour s'impose à moi, enfin je suis sensible à cet amour, enfin non.
Donc le 1 et le 3 se contredit par l'extérieur.
Le 1 est contredit par l'expérience, le 3, c'est psychologique. Elle fait l'expérience qu'elle ne vit que de l'amour, mais...
Concrètement...
C'est pas exact, c'est un amour sensible, c'est l'impression, c'est le repli sur quelque chose qui correspond à une masturbation psychique. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je pèse pas, j'aime tout le monde.
Dans les faits, c'est pas pareil.
Bah, dans les actes, j'ai pas besoin de Dieu, tout ça. Bref, j'ai pas besoin de l'amour, puisque j'aime. C'est aberrant, c'est une contradiction, si tu veux. Donc, c'est une aberration ici, c'est contraire au réalisme ici, et là, c'est pas, on a un cœur blessé. Bon, l'intelligence, bon, ah, ce que tu veux dire, c'est le fondement scripturaire pour l'intelligence. Ah, d'accord. Ah, pour l'intelligence, pareil, Luther dit, complètement blessé, on ne peut atteindre aucune vérité par nous-mêmes. On ne peut pas trouver que Dieu existe, on ne peut pas rien. Pas contempler Dieu par nos propres forces naturelles d'intelligence. Bon, nous disons notre intelligence, troisièmement, position 3, c'est ce que nous disons, notre intelligence n'est pas blessée par le péché. Elle reste native. Notre intelligence reste contemplative, elle est toujours capax veritatis, hein? Totalement, sans se tromper. Et puis, tout un ensemble de gens, positivisme, etc., le philosophe va dire, oh ça, c'est pas vrai, il faut beaucoup critiquer, il faut procéder par la dialectique, l'esprit critique, la négativité, il faut toujours un petit peu nier ce qu'on a trouvé pour trouver une vérité supérieure, etc. Je veux dire, je ne crois pas que ce soit d'ailleurs une position très explicitée, sauf c'est Kant peut-être. Mais Kant, il tient beaucoup plus de la position luthérienne. C'est plutôt la position hegelienne qui est protestant aussi, ça. C'est que la vérité s'acquiert par le point de vue de la négation, le primat de la négation. Tandis que nous, avec Aristote, eh ben, nous considérons, parce que la foi catholique, comme tu dis, elle prend cette position-là de l'intégrité de l'intelligence, pas tellement à cause de la révélation, parce qu'elle s'appuie, parce que tout ce que le croyant peut découvrir par lui-même avec sa propre intelligence, il n'a pas besoin de la découvrir par le point de vue de la révélation. Dieu ne se substitue pas à ce que tu peux trouver par toi-même. Or, Aristote nous a fait découvrir que l'intelligence est capable, capax, elle est capable de recevoir par le point de vue de l'être.
Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que les protestants, ils ne peuvent pas capter Aristote, alors.
Ni
l'expérience réaliste.
Tout à fait. C'est parce que les protestants, c'est à cause de ça que tous les philosophes protestants, ils sont ou kantiens ou hegeliens. Ah jamais, tu verras jamais un... Hein, jamais. Tu verras jamais un philosophe. Bien sûr que si, il doit y en avoir, oui. Il faudrait... Non, bien sûr qu'il doit y en avoir. J'ai pas réfléchi à la question. Mais ça, c'est une question philosophique, ça, tu comprends. Mais il doit y avoir des confirmations dans la Bible, ça, oui. Oui, mais peut-être que lui, il va trouver une confirmation biblique.
Non, moi, je lui renvoie une autre question. Justement, Luther renvoie à, notamment à Rocard, je pense, la philosophie médiévale, qui ramène la toute-puissance de Dieu et qui, d'une certaine manière, désubstantialise la création. Et comme quoi, il n'y a plus d'autonomie de la nature vis-à-vis de la question naturelle. Et donc, ça veut dire justement qu'il y a le phénomène de la prédestination chez les protestants, puisqu'il n'y a plus de liberté, en fait.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est lié tout ça?
Ça, c'est plutôt calviniste que luthérien.
Plutôt calviniste. Mm.
D'accord. Comme position. C'est encore une autre position. Quatrièmement. C'est calviniste, ça, hein? La désubstantialisation de la matière, hein, et, à cause de du phénomène de la toute-puissance divine, oui, ça c'est Ockhamien, qui est franciscain, n'est-ce pas? Bon, mais tout le monde est largué, donc il vaut mieux reprendre. C'est pour ça d'ailleurs que Calvin prend effectivement cette position, Ockhamienne, c'est vrai, et en même temps, il prend une position aristotélicienne quelque part. Calvin, il est aristotélicien sur l'éthique.
Oui.
Mais pas sur la métaphysique.
C'est pour ça qu'il
est précis à Thomas d'Aquin. Ils sont calvinistes, à la
fois.
Oui. Le calviniste accepte saint Thomas d'Aquin, par exemple, en éthique.
Ah, voilà, dans l'éthique.
C'est-à-dire Aristote, quoi.
On revient à la
question
de l'univers, donc c'est pas de la question de l'univers.
Oui.
Il suffirait de revenir à étudier ce que Adam a fait avant le péché originel et ce qu'il continue à faire après, ou ce qu'il ne continue pas après. Non. Pour démontrer aux protestants que.
Moi, je crois que l'alliance que Dieu fait avec Adam T'as qu'à regarder la punition qui est faite après le péché, c'est dans ces passages-là qu'il faudrait le regarder. Hein? Et tu verrais que l'alliance de Dieu avec l'homme montre que ce qui est supprimé par rapport à l'alliance précédente ne touche pas l'intelligence. D'ailleurs, c'est assez clair, on s'aperçoit que... Moi, je crois que c'est assez clair dans la Genèse. C'est sûr que c'est le travail qui sera plus pénible. C'est la relation entre l'homme et la femme qui sera plus pénible, hein, quelque part, à cause de la convoitise. Et puis, c'est quelque chose qui sera plus pénible aussi, c'est le point de vue de la mort, donc c'est le point de vue du corps. Mais l'intelligence, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a aucune conséquence du côté de l'intelligence, on le voit bien. Du côté du cœur, oui, puisqu'il y aura un problème de concupiscence entre l'homme et la femme, mais cette concupiscence ne supprime absolument pas cet amour éperdu de l'homme et de la femme, puisque l'alliance de Dieu à travers l'amour de l'homme et de la femme perdure. Et c'est ce que je dis hier en disant, j'ai procréé de par Yahweh.
Il y a même une ouverture au contraire de l'intelligence, puisque au moment où Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance, ils deviennent en quelque sorte plus lucides quelque part, non?
Oui, mais ce n'est pas en leur intelligence contemplative. Ce n'est pas en leur intelligence contemplative qu'ils prennent l'arbre du jardin. Ils prennent l'arbre du jardin par une préhension du mental.
Donc c'est pas l'intelligence.
Si, c'est l'intelligence, mais dans le point de vue de la raison. Séparés de l'innocence, de la présence de Dieu à l'intérieur de toutes choses. Ils veulent saisir les choses en elles-mêmes séparées de Dieu. C'est pour ça que ce n'est plus une intelligence contemplative. C'est une intelligence réflexive. C'est ça? Donc dans la conscience de culpabilité, le vécu affectif, le vécu affectif, autant dans le sentiment de culpabilité, est quelque chose qui est indispensable. Vous voyez, le vécu affectif est très important dans le sentiment de culpabilité. C'est ça qui domine tout. Ah, j'en peux plus. Ah, si, alors. Mais dans la conscience de culpabilité, le vécu affectif n'intervient pas. Totalement indifférent. Hein? Ça veut dire que dès que je suis au niveau de la conscience de culpabilité, je suis en train de regarder ma relation avec cette présence d'amour infini et cet appel à l'amour infini qui est au fond de moi, qui ne quitte pas aucune des cellules, des 700 milliards de cellules de mon corps, mon mental métaphysique cellulaire, multiplié par 700 milliards de cellules, hein, Dieu y est présent et cet élan immaculé d'innocence divine, et c'est ça, je suis dans cette relation, à cette réalité-là, je ne suis pas dans une relation affective avec mon père, ma mère, mon momo et tout. Hein? Alors, la conscience de culpabilité dans le temps, elle se met en place vers 3-6 ans, dans la phase de contre-dépendance, dite aussi phase d'indépendance. Vous avez qu'à lire, si ça vous intéresse, plutôt les ouvrages de Piaget là-dessus, sur la période du oui, la période du non, et l'apparition précisément de la conscience chez l'homme. La phase de contre-dépendance arrive en nous lorsque l'enfant commence à s'opposer à son père ou à sa mère. Vous voyez, c'est cette période-là, de 2 à 6 ans. Je vous ai dit la dernière fois et je vous ai expliqué comment le sentiment de culpabilité était définitivement formé à l'âge de 2 ans. Donc tout ce que vous ressentez au niveau angoisse, inhibition, souffrance, blocage. Ne dites pas ça vient de ma copine à l'âge de 16 ans qui m'a trahi. C'est pas vrai. Ça vient du traumatisme que j'ai eu parce que mon frère est mort dans un accident de voiture quand j'avais 20 ans et lui, j'étais très lié à lui, il avait 22 ans. C'est pas vrai. C'est une blessure qui a réveillé quelque chose qui était déjà formé complètement à l'âge de 2 ans. Le sentiment de culpabilité est totalement formé à l'âge de 2 ans. Donc n'accusons jamais un événement ou qui que ce soit de m'avoir mis dans cet état, n'est-ce pas, dans lequel je suis à cause de ce qu'il m'a fait ici. C'est pas vrai. Parce que si ça me met dans un état lamentable, c'est ici que ça se situe, la cause. À 100%, il n'y a pas même 1% qui puisse. On dit toujours la goutte qui fait déborder le vase. Mais ce n'est pas la goutte qui fait déborder le vase.
Il y a quand même des choses nouvelles qui se passent.
C'est que face à un événement de souffrance, qu'est-ce que tu fais? Tu te replies sur toi. Et sur toi, tu retrouves cette structure de sentiment de culpabilité qui ne change pas. Qui ne s'aggrave pas pour autant. Surmonter si on accepte de vivre de la conscience de culpabilité et d'aller jusqu'à l'innocence divine. Hein? Alors justement, c'est ce qu'on essaie de regarder. Hein?
C'est la démarche psychanalytique qui avait quelque chose d'intéressant.
Bah, si elle s'arrête au sentiment de culpabilité, elle va changer peut-être quelques morcellements structurels, mais le sentiment de culpabilité ne disparaîtra pas du tout.
C'est une prise de conscience, parce que la psychanalyse, c'est prendre conscience justement de...
Mais cette prise de conscience est psychologique, donc comme elle se sépare de Dieu, elle ne supprimera pas la structure même du sentiment de culpabilité dans ses profondeurs, elle en changera quelques éléments d'ordination, c'est tout. Mais les mêmes éléments, ils demeureront.
Un enfant a reçu l'impression de sa mère pendant ses 9 mois, n'est-ce pas? Alors, quand il a un sentiment de culpabilité, est-ce que ces impressions de sa mère sont profondes?
Oui, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans, à peu près, 2 ans, 2 ans et demi, c'est ça qui structure tout votre sentiment de culpabilité. Ah oui, c'est ce que je vous dis, il hérite tout à fait. Pas seulement de sa mère, hein, de lui-même, de ses actes personnels aussi. Hein. Mais aussi des impressions, et aussi peut-être des influences de puissance, aussi, hein, de beaucoup de choses, des vibrations, même s'il ne regarde pas la télé, toutes les vibrations qui passent dans les airs, qui transportent des paroles, des images terribles, 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 on les reçoit tous en pleine figure, on a un récepteur, hein. Même si on n'est pas devant le poste de télévision, on reçoit tout ça, vous savez. Bon, alors. Oui, et puis même l'héritage du péché originel. Bon. Donc, à un moment donné, on reçoit tout sans se défendre, quelque part. Puis d'un seul coup, apparaît la phase du non. On commence à se défendre. Et c'est pour ça qu'apparaît la période du non, l'enfant qui dit non, phase de contre-dépendance. Excellent. Vous voyez, parce que finalement, le sentiment de culpabilité s'est formé et la conscience de culpabilité va commencer à pouvoir jaillir ici, apparaître, et commencer à progresser à partir de l'âge de 3 ans. Ça, c'est très intéressant à voir. Vous voyez, ce que je vous disais, la souffrance n'est plus reçue pour constituer, j'allais dire, le point de vue de mon sentiment de culpabilité, mais il commence à y avoir ce phénomène d'autodéfense par rapport au père et à la mère, par rapport au monde extérieur, face du non, qui met dans un état, vous voyez, souffrance, entraîne réaction de défense, entraîne réaction d'agressivité, point de vue du non, grâce à quoi je peux commencer à être conscient de ce que je fais. Parce que l'agressivité me sépare quelque part et me met donc dans une objectivité par rapport à ce que je fais dans les actes. C'est subtil. N'empêche que cette phase du non montre à partir de quel moment vous pouvez donner à un enfant ou retrouver vous-même en revenant en enfance ce premier moment où vous pouvez être lucide de la présence de Dieu, d'être actif, vous voyez, dans l'invasion du divin en vous. Vous commencez à être autonome dans votre vie mystique, autonome. C'est à ce stade-là. La conscience de culpabilité donc apparaît vers l'âge de 2 ou 3 ans. C'est un moment d'opposition volontaire qui engage votre volonté et votre responsabilité. C'est une étape donc tout à fait importante puisqu'il faut, vous comprenez, il le faut cette opposition pour découvrir son identité. C'est grâce à cette opposition que je vais, structurer mon identité. Nous l'avons déjà vu d'ailleurs dans le sentiment de culpabilité. Et c'est dans cette constitution, j'allais dire, du moi. L'agressivité permet la constitution du moi. Et vous voyez cette petite cellule qui est ici, la constitution du moi, qui à partir du sentiment de culpabilité, grâce à l'agressivité, commence à apparaître. Cette petite cellule qui est là, elle est, j'allais dire, grossie avec cette cellule-là, hein, que nous sommes en train de regarder. Voilà. la constitution du moi. C'est un grossissement. Et il faut regarder cette constitution du moi à travers laquelle on commence à structurer notre personnalité, notre identité spirituelle, personnelle. Parce que cette agressivité, vous sentez bien, la mère, elle s'en rend compte, à quelque chose d'inadapté. On se dit, mais c'est aberrant, réaction exagérée, quoi, systématique. C'est perturbant même quelquefois, on se dit, mais ça dure quelquefois 2-3 ans, on se dit, mais ce gosse, c'est terrible, qu'est-ce que ça quand il aura 14 ans, enfin, hein, toujours il y a une peur qui est terrible, il y a quelque chose d'inadapté. Pourquoi? Parce que ça va passer par la révolte, c'est un espèce de sentiment de révolte, cette prise d'indépendance. Et ce caractère inadapté de la réaction vient du péché originel. C'est là qu'une mère chrétienne, elle peut comprendre, d'une part, que c'est positif, donc il faut le laisser faire, et d'autre part, qu'il y a quelque chose d'inadapté à la réaction à cause du péché originel. Et donc, s'il y a la phase du non, il faut qu'elle laisse faire cette phase du non, qu'elle l'empêche pas, qu'elle l'étouffe pas, d'une part, et d'autre part, qu'elle réagisse contre le caractère inadapté de cette phase de contre-dépendance en priant avec ardeur.
Est-ce qu'elle peut se sentir coupable?
Oui, mais ici, on a affaire à quelqu'un qui est censé être dans la conscience de culpabilité. Alors, si elle se sent coupable, elle ne peut pas éduquer, parce qu'elle est au niveau psychologique. Hein. Donc ici, elle sait, elle est mère, elle comprend que cette phase de dépendance est très importante, et en même temps, elle se comprend aussi que ce caractère exagéré, inadapté de la révolte, vient du péché originel, donc qui n'en est pas responsable, et donc elle doit réagir en priant avec ardeur, en adorant au moment de cette phase de contre-dépendance. Alors à ce moment-là, elle enveloppe, elle amortit les conséquences du péché originel et l'inadaptation de la réaction. C'est une petite parenthèse. Donc cette agressivité, montre qu'il faut respecter cette phase de révolte parce que je désire que mon enfant soit lui-même et donc que son moi se structure. Et je vais l'aider à assumer cette responsabilité nouvelle qu'il doit, sa dignité nouvelle qu'il doit construire. Et en même temps, je dois l'aider à assumer cette révolte qui est en lui et qui vient de l'angoisse de ne pas être aimé. Il faut que je l'aide à assumer. En disant, premièrement en réagissant positivement, en disant, tu te mets en colère, oh là là, ça c'est bien, c'est toi, ouh, c'est Caroline, hein, ouh là là, Caroline, mets-toi bien en colère, c'est Caroline, c'est bien elle et tout, c'est bien. Allez, plus fort, révolte-toi encore plus fort. Allez, crie. Vas-y. Et... Si, avec 15 enfants, c'est encore plus facile. Si, parce que justement, à ce moment-là, la révolte prend plus d'ampleur, il y a plus de spectateurs, et donc la révolte dure beaucoup moins longtemps. Et... Mais en même temps, il faut comprendre, il faut lui dire la vérité. Vous comprenez que la conscience de culpabilité est liée à la vérité. Oh, tu te mets en colère parce qu'on t'aime pas, hein? Tu te mets en colère parce qu'on fait pas attention à toi, parce que tu as peur qu'on t'oublie. Allez, mets-toi en colère, dites-lui. T'inquiète pas, va, on prie pour toi. Dieu t'aime plus que tous les autres. Et puis vous priez. Bon, moyennant quoi, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir ces paroles-là. Parce qu'à ce moment-là, elles sont immédiatement reçues à 100% par le gosse. C'est ce qu'il lui faut. C'est donc de l'âge donc de 2 à 6 ans, ça. Et vous comprenez, si je vous dis ça, c'est par rapport à nous. Donc il faut qu'on se rappelle que, de ce côté-là, nous n'avons pas bien fonctionné. Nous-mêmes, de l'âge de 2 à 6 ans, on a eu des petits... On n'a pas eu la Sainte-Anne et Saint-Joachim comme père et mère, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Dans la conscience de culpabilité, la responsabilité coupable est engagée.
Mode d'apparition.
Troisième, on part dans moi.
Responsabilité. Ah voilà. Oui. Donc, notre responsabilité, vous savez, sur le point de vue de nos réactions primo-primi, hein, face à une blessure, à une parole, une trahison, notre première réaction est non coupable, c'est évident ça. Elle est structurée par quelque chose qui s'est passé déjà de l'âge de 0 à 2 ans. Bon. Mais la réaction secondaire, la prise de conscience, dans la conscience de culpabilité, cette fois-ci, elle est coupable. Les actes qu'on pose ici commencent à devenir coupables. Là aussi, dans l'éducation, c'est très important. Attention, ce que tu vas dire maintenant, tu es responsable. Une fois qu'on lui a dit la vérité en disant on comprend, etc., s'il déborde un peu, on prie. S'il déborde encore un peu, attention, cette fois-ci, tu es coupable. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu fais volontairement. La responsabilité dans la conscience de culpabilité, donc, c'est une responsabilité coupable, elle est engagée. Parce que le choix qu'on fait ici commence à devenir responsable, lucide. Et donc, si l'acte est négatif, vraiment, et s'enracine dans la négativité, il est coupable et vous êtes responsable. Donc, il faut faire la différence énorme entre ce qu'on pourrait appeler le péché communionnel, le péché réactionnel, qu'on hérite, j'allais dire, du fameux héritage dont vous parliez, du père, de la mère, du péché originel, et de l'influence aussi du péché du monde, et le péché personnel qui commence à apparaître ici. C'est pour ça qu'on peut confesser, c'est très bon, commencer à confesser les enfants dès l'âge de 4 ans. Dans le péché communionnel, je réagis comme je peux face au non-amour face à mes parents. J'attends qui m'aiment infiniment à la manière de Dieu, et à l'âge de 1, de 2 ans, et puis je me suis laissé dans mon attente, alors je réagis comme je peux. Ça, c'est le péché communionnel. Je suis pas coupable, là. Très bien. Tandis que dans le péché personnel, c'est tout à fait différent. Par exemple, je vais naître, je suis un garçon, on attendait une fille. Mon père voulait une fille. Alors, le péché communionnel va structurer mon moi, d'une certaine ma réaction primaire, ma réaction systématique face à mes relations aux femmes, aux filles, aux hommes, aux autorités, aux communautés, etc. Dans cette attente, mon père attendait que je sois une fille, je suis un garçon, donc je vais avoir une réaction féminine. Jusqu'à l'âge de 50 ans encore. Charmant pour l'épouse, remarquez bien. Mais c'est pour ça que si tu épouses quelqu'un, il vaut mieux pas vivre au niveau donc psychologique. Sinon, ça risque de provoquer chez l'épouse, à terme, une certaine frigidité. Si elle est normale, évidemment. Parce qu'elle, évidemment, son père a peut-être désiré un garçon et à sa naissance. Mais vous comprenez qu'ici, dans le péché communionnel, dans le sentiment de culpabilité qui se structure de l'âge de 0 à 2 ans, je choisis finalement, c'est un choix que je fais, je suis responsable quand même, hein. Je fais des choix. Même quand je suis dans le sein de ma mère, je fais des choix. Je suis responsable, je ne suis pas coupable, mais je suis responsable. Et je fais le choix d'être ce que je ne suis pas. Parce que je réagis face à cette communion avec mon père et ma mère. Elle ne m'aime pas telle que je suis, et du coup, je choisis d'être ce que je ne suis pas pour colmater la brèche quelque part. Vous voyez bien ça. Alors, je vais avoir un comportement féminin alors que je suis masculin, par exemple. C'est l'exemple classique qu'on donne, qui est plus facile à comprendre. Que le péché communionnel, je suis responsable, mais pas coupable. Tandis que dans le péché personnel, je suis coupable. Je suis responsable aussi, et je suis coupable. Par exemple, vous vous rappelez que quand votre père, par exemple, papa arrive, excédé à la maison, etc., il n'en peut plus, et puis toi, tu es là, « Oh, j'arrive pas à prendre mes sons, si, et là !» Je dis, « Oh non, là, là !» Pas possible, et puis par hasard, c'est le jumeau qui arrive, il dit, « Viens ici, bang !» Je dis, « Il n'y faut rien du tout !» Tu prends une trempe ? Je dis, « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas vrai, rien à faire !» C'est mon frère qui prenait toujours les coups. Alors, j'ai rien fait et tout, alors ouh. Et il se retrouve à la maison, dans sa chambre et tout, et il dit, ouais, c'est dégueulasse, c'est moi qui ai tout pris, tout, j'en ai marre, il me punit, ben que papa, ben qu'il s'en aille, qui je veux plus de lui, etc. Vous voyez la réaction du péché personnel, responsable et coupable, il dit, puisqu'il a fait ça, qu'il s'en aille, qu'il fout le camp, qui je veux plus de papa, je veux plus de Dieu. Et je t'assure que mon frère, tu coupes aussi. Quand il est rentré, il est doux comme un agneau pourtant, de nature. Extraordinaire, ceux qui le connaissent, vous savez, c'est un saint. Mais quand il est rentré à l'école Sainte-Geneviève, je sais pas, il se faisait persécuter par le proviseur. Il y avait un phénomène, pourtant il faisait rien, hein. Mais c'est pas, il y avait en lui quelque chose qui induisait quelque chose systématiquement impossible, il n'arrivait pas à s'entendre, hein. Rien à faire. Et il rentre dans la première boîte, paf, c'est lui qui avait les meilleurs résultats de l'entreprise, le meilleur chiffre, le meilleur machin. Il n'a eu aucune promotion, jamais, il s'est fait vider, il est rentré dans un autre truc. À Lyon, pareil, tout de suite, 6 mois après, rien à faire, les autorités, chefs de service, etc., l'ont cassé, meilleur résultat, toujours pareil, le plus brillant, celui qui faisait marcher toute la boîte. C'est dégoûtant. Mais il reproduisait un phénomène qui se passait là, sur le jumeau, c'est le jumeau qui empochait tous les bénéfices, c'est lui qui faisait tout le travail. C'est-à-dire, très impressionnant. Du coup, on lui file il a réussi à trouver un boulot où personne, il n'y a aucune autorité, il n'y a que lui qui travaille. C'est lui qui est sa propre autorité. Alors maintenant, ça marche à peu près. Mais il a une autre autorité à la maison, c'est son épouse. Hein? Non, mais c'est 30 secondes, ça. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, il faudrait que je retrouve par ma conscience de culpabilité, par la prière, que Dieu me révèle que ma réaction quand j'avais eu vers l'âge de 3, 4 ou 5 ans, et moi je me rappelle personnellement très très bien de certaines scènes qui se sont produites avec mon frère et mon père, je me rappelle très bien que c'était là. Hein. C'était avant l'âge de 6 ans, ça je me rappelle très bien moi. Lui, je suis sûr qu'il ne s'en rappelle pas. Hein. Alors, s'il s'en rappelle, il faudrait qu'il retrouve ça et qu'il retrouve par une révélation du Saint-Esprit que sa réaction a été autant contre Dieu que contre son Père. Et donc, il demande pardon à Dieu d'avoir eu cette réaction contre lui. Et qu'il comprenne qu'ici, il a fait un péché qu'il n'a jamais confessé, bien entendu, puisqu'il n'a jamais vraiment... C'est à l'âge de 8 ans qu'il a fait sa première confession. C'était déjà il y a 3 ans plus tard. Alors. Même les Américains, ils font pas ça. Bon. C'est une attitude mortelle, ces réactions, vous voyez. Je vais me venger contre papa. C'est une réaction mortelle, une attitude mortelle, surtout pour un garçon, donc il se coupe de son père, c'est trop clair ça. Mais ça va revenir à la surface par la prière. Oui. Mais on peut pas avancer avec vous, ce sujet est super délicat et... Oui. Oui, on y viendra, d'accord, hein, chaque chose en son temps. Le rosaire de l'anamnèse est une chose très importante. Donc effectivement, si vous faites le rosaire de l'anamnèse, c'est évident que ces choses-là remontent à la surface. Hein. Bon, je termine par là parce que je vois que je n'avance pas. Dire que je voulais faire ce truc-là en une fois, pétard, j'y aurais passé l'année. Hein. J'ai fait 12 lignes, là. Bon, alors, je vous fais le revers de l'anamnèse. Il faut faire revenir à la surface. Vous comprenez bien que c'est Dieu qui révèle mon péché. Comment faire pour que ce sentiment de culpabilité, j'allais dire, non, il faut pas le mettre entre parenthèses, ce sentiment de culpabilité. Il faut rentrer dedans, vous voyez bien ce qu'on avait dit sur le mental des cellules samedi. Il faut rentrer dedans pour atteindre, justement, à travers ce tunnel noir, cette lumière qui est dans l'interface de ma cellule, de mon corps animé spirituellement, dans un amour infini, éternel. Et en ce sens, les paroles que Mira Alfassa disait sont bouleversantes, bouleversantes. De vérité. Mais en même temps, elle accède à ça avec une puissance, j'allais dire, un perforateur pour rentrer, qui n'est pas la révélation de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle prend des puissances métapsychiques pour y arriver. C'est là que je dis non. Vous avez, pour ceux qui étaient là samedi, je pense que c'est clair. Bon. Pour ceux qui n'étaient pas, il y a des cassettes. Charlotte, c'est très heureuse. Des cassettes. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est de comprendre que c'est Dieu qui révèle ce péché. Qui nous révèle ce péché. Et donc, il faut retrouver Dieu par la grâce. Et en général, ce que je conseille, ce que je me conseille en tout cas à moi-même, croyez-le bien, c'est cela, c'est de faire ce que j'appelle l'anamnèse. Mnésis, c'est la mémoire, en grec. C'est une opération de la mémoire, l'anamnèse. Vous revenez à cette mémoire initiale qui était portée par une seule cellule quand vous avez été conçu, que Dieu vous a créé et donné une âme spirituelle, qui est multipliée par 700 milliards aujourd'hui, mais c'est la même information. Cette information d'une innocence divine originelle, il faut la faire revenir. Et retrouvant cette conscience initiale, si je puis dire, conscience à travers une mémoire ontologique, une fois que je retrouve mon innocence divine, je peux redescendre, la trouvant aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette information qui est partout en mon corps, en mon âme, en mon esprit, je peux redescendre dans toute ma vie, dans tout le circuit de ma vie, dans les profondeurs de mon existence, pour voir précisément tous les actes que j'ai posés et qui m'ont, où j'ai rejeté précisément ce qui faisait mon moi, mon être vrai, mon être profond, mon être spirituel, mon être humain, mon être d'amour, mon être appelé à l'éternité, mon être possédant déjà l'éternité, mon être projeté dans cette soif d'amour, dans cette lutte pour l'amour, dans cette lutte pour la sainteté, qui ne m'a jamais quitté. Mais j'ai posé des actes pour m'en séparer. Et pour ça, donc je propose l'anamnèse. L'anamnèse, c'est de retrouver tous ces actes et faire remonter à la surface. Personnellement, je fais comme ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres ont d'autres méthodes. Hein. Mais je ne sais pas. Je dis le rosaire. C'est facile. Ah, moi, je dis des rosaires des milliers de fois. Je fais l'anamnèse par le rosaire. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que dans le rosaire, vous avez 15 mystères. Je demande à Marie, à la Vierge, qui est immaculée par sa conception, qui est ma mère, qui au pied de la croix est face à l'innocence crucifiée de Jésus, et quand Jésus lui dit « Voici Jean, donc voici ton fils, elle a regardé réellement, elle a été ma mère, elle a regardé réellement mon premier moment, quand Dieu m'a créé, elle m'a engendré dans une grâce de rédemption immédiatement. Elle est ma mère. Le mystère de l'Immaculée Conception, quand elle prend conscience de son origine face au cœur blessé de l'agneau, elle voit que le cœur blessé de l'agneau, c'est son origine. L'Immaculée Conception jaillit du cœur blessé de l'agneau, l'unité du Verbe et de l'Esprit Saint, dans un amour substantiellement passif, jaillit de là. Et quand elle en prend conscience, en même temps, très lucidement, elle est présente à l'advenue à mon existence dans l'innocence divine initiale que j'ai connue en 1950 mars, fin mars 1950, c'est pour moi ça, le 25 mars c'est beau, je vous demanderai à ma mère si j'étais conçu le 25 mars 1950, pourquoi ? 5 mars, c'est l'Annonciation.
Oui.
Ah, j'aimerais bien, eh. Parce que je suis né le 20 décembre. Ben, eh ben, 9 et 3. Bon, enfin, c'est pas un problème, alors. Donc, simplement, je demande à l'Immaculée sa conception. Ici, dans ce premier moment de ma vie, il faut le savoir, c'est vrai. Nous savons par la foi, donc, totale certitude que l'Immaculée Conception, Marie, ma mère, physiquement, avec son corps de femme, son cœur de femme humaine, et en même temps cet océan immaculé de grâce, cette mer de cristal face au trône, avec les 24 vieillards et toute la liturgie céleste dans laquelle Jésus est déjà en train de jubiler dans la vision béatifique en son âme, avec Joseph, etc., et le Père et l'Esprit Saint, elle est immaculée, elle est là, présente à moi physiquement, plus que ma propre mère, en son corps, en son cœur de femme. Marie est plus ma mère, physiquement parlant, même physiquement parlant, que ma propre mère. Là, elle est présente. C'est ça l'innocence divine. C'est ça la source de mon innocence divine. Ma prédestination à la sainteté chrétienne vient de Marie. Physiquement, ma sainteté chrétienne implique le corps et elle m'enfante à ça avec ma mère. Heureusement, c'est génial. De même que le péché est entré par un homme et une femme, de même, cette loi éternelle d'amour, cette sainteté initiale, avec tous ses talents et tous ses germes, sont donnés physiquement, j'allais dire par Jésus et par Marie, ils sont présents réellement, mais alors cette fois-ci sous un mode physique, hein. C'est pas sous un mode sacramentel, c'est ça. C'est pas per modum substantiae, comme dans l'Eucharistie, c'est per modum physice, si je puis dire.
Mais mais
l'innocence divine relève de la grâce. Hein. Au fond, on n'est pas créé dans la grâce originelle comme Adam hier, on est créé en Marie, dans la grâce chrétienne, et aussitôt péché originel. Et on perd la grâce. C'est extraordinaire cette première. Et en même temps, on ne perd pas cette influence de la grâce originelle perdue par péché originel, puisque cette influence demeure toujours. Et j'allais dire, ça, c'est très important, ça. Vous voyez bien ? Parce que la grâce, on perd l'état de grâce, ça veut dire quoi ? On perd cet habitus entitatif lié à la grâce sanctifiante qui fait que la grâce sanctifiante ne cesse d'augmenter. C'est ça le péché originel. Alors la grâce devient, dans sa vivacité d'invasion de tout mon corps, tout ça, elle est morte. Mais elle est là. Si je puis dire. C'est pour ça que c'est plus une grâce sanctifiante. Bon, donc on perd l'état de grâce. Mais on garde l'innocence divine qui nous vient de Marie. Alors, ça, c'est très important. Donc, avec l'Immaculée Conception, je vais dire le credo. Avec elle. Grâce au credo, au Notre Père et aux trois Je vous salue Marie, je me remets dans ce mystère de l'Immaculée Conception qui vit cette union avec le Père, se marie avec lui. Je rentre d'abord dans la foi de l'Église. Je m'unis. Je vois comment Marie s'unit au Père pour vivre du mystère de l'incarnation. Et une fois que je suis là, je vis avec Marie et je rentre dans le premier mystère, qui est l'annonce de l'ange, l'annonciation. Quand l'annonciation se fait, ce premier mystère, je demande à l'Immaculée de vivre ce mystère comme elle l'a vécu et dans l'état dans lequel je suis, en mon premier instant de vie. Ce premier instant demeure aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est ce premier instant de vie, ce premier moment où j'ai été conçu, je vais le revivre avec elle. Dans le premier mystère de l'Annonciation, l'ange Gabriel lui apparaît. Elle s'ouvre à la très sainte Trinité, à la procession, elle dit Fiat. Et il y a cette conception, le Verbe est conçu, engendré, non pas créé. De même que moi, je suis conçu, créé par elle, engendré par le point de vue de la croix. Et ça, je revis ça avec elle, je dis le premier Notre Père, les dix, je vous salue Marie, et je fais mon Notre Père par rapport à la conception, ainsi que le premier Je vous salue Marie, la période des 9 mois avec le deuxième Je vous salue Marie, le troisième Je vous salue Marie, et je reprends tout mon cheminement, je prends les deux Je vous salue Marie suivants, de l'âge de 2 à 6 ans, de 0 à 2, pardon, pour la phase donc de la constitution du sentiment de culpabilité, je prends les deux suivants pour la phase de contre-dépendance, le suivant jusqu'à la puberté, etc. Et au bout de 10, je peux atteindre, disons, l'âge jusqu'à l'âge de 14 ans, par exemple. Enfin, c'est à vous de choisir, hein. C'est à vous de sentir ça. Mais en tout cas, dans le premier mystère, je reprends tout le cheminement avec l'Immaculée Conception et je revis du premier mystère qu'elle a vécu avec elle. Je fais le voyage de toute ma vie intérieure, toute ma vie humaine, jusqu'à un certain âge. Moi, personnellement, je conseille de faire un premier rosaire jusqu'à l'âge de 10 ans. Et une fois que j'ai fait tout le voyage jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai demandé à l'Immaculée de laver, d'immaculiser, de compléter, de cicatriser, de réparer, d'enflammer tous ces moments de non-attente, de me mettre dans l'action de grâce, de dire « mais j'ai pas eu l'amour de mon père et de ma mère, très bien, mais l'Immaculée, tu remplis tout ça, et c'est beaucoup mieux encore, j'ai du pot, merci Seigneur, etc. » Et je revis ça tranquillement. Deuxième mystère, je recommence, elle part, elle va vers la charité fraternelle, elle va rendre service dans la gratitude, faire des toutes petites choses, etc. Et c'est l'action de grâce, on est content d'être ensemble, on prie ensemble, à Magnificat Anima Mea, et avec elle, telle qu'elle le vit, malgré tout dans un esprit de sacrifice, et je sépare de Joseph. Alors, eh bien, je revis à nouveau, je reviens à mon innocence divine initiale, et je refais ces 10 ans à l'intérieur de ce vécu de l'Immaculée Conception dans le deuxième mystère. Et je recommence avec le troisième mystère, la nativité. Je recommence avec les mystères glorieux, avec les mystères douloureux. Et 15 fois, je refais le trajet avec elle pendant ces 10 ans. Mystiquement, je revis tout ce que j'ai vécu avec elle. Et elle lave tout. Et comme ces 15 mystères font le tour de tout ce qui peut arriver en joie, en douleur ou en victoire dans toute ma vie, j'ai fait ce qu'on appelle une anamnèse d'immaculation, de guérison. À ce moment-là, si je fais ça, je vous assure, si on le fait tranquillement, ouais, j'imagine, personnellement, je peux vous dire, ça me prend 3 heures, hein, faire ça. Ça me prend tranquillement. Je ne m'arrête pas à 10 « Je vous salue Marie ». Si au bout de 10 « Je vous salue Marie », j'en suis encore qu'à l'âge de 5 ans, je continue. J'en dis 20 dans ce mystère. J'en dis 20 jusqu'à ce que j'ai fini mes 10 ans. Je refais le voyage. Et il y a des choses qui apparaissent, qui reviennent, tout simplement. Et que j'offre. C'est incroyable tout ce qui réapparaît. Des choses toutes simples, toutes bêtes. Hein. J'ai trouvé un œuf de Pâques. Dans le jardin du voisin, dans son potager. 30 jours après Pâques. Rappel, j'avais 3 ans. Et demi. Un œuf de Pâques, c'était en Allemagne. Bon, ça ne vous dit rien. Et c'est des petits détails. Et donc, je refais. Vous voyez ce que c'est qu'une anamnèse ? C'est de permettre que se révèle divinement dans l'amour, dans l'immaculation, dans la plénitude de grâce, tout ce que j'ai vécu pour que tout soit lavé, offert, immaculisé, dans une maternité, dans une paternité de Dieu, dans une inséparation entre l'homme, l'amour de l'homme, l'amour de Dieu, l'amour de l'homme, c'est Jésus, L'amour de Dieu, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'amour de la femme, Marie, mon père, ma mère. Il y a une espèce de réconciliation, une unification qui se fait. Et à ce moment-là, je deviens lucide, lucide, lucide dans mes actes. Et je vous assure qu'après, je me rends très bien compte que si j'ai une petite agressivité coupable par rapport à quelqu'un, je vois très bien, clairement, immédiatement, sans aucune réflexion, que c'est Dieu que... Et quand je me confesse, je sais que c'est Dieu hein, que j'ai... qui est visé. Ça, j'en ai complètement conscience. Je suis redevenu un homme. Et à ce moment-là, je ne vis... C'est merveilleux, ça, parce que vivre au niveau de la conscience, de culpabilité, être conscient de ce que je fais, ça ne m'empêchera pas de faire le péché. Mais au moins, je sais ce que je fais. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne vivrai pas le péché. Je ne vivrai pas le péché psychologiquement. Ça me redonne une liberté spirituelle. Évidemment, passer évidemment, par les mystères douloureux, c'est très important. À cause de ce que ces mystères douloureux viennent réparer la flagellation. 4280 plaies. Déchirée, Jésus. Marie déchirée en sa chair aussi. Quand elle... Ça, j'admire le film de Zeffirelli pour ça. C'est génial, la flagellation. Il y a les chevaux qui sont là, qui sont attachés. Et à chaque coup, les chevaux... Parce que quand Jésus est flagellé, les chevaux sentent ça. Réagissent, toute la création réagit à la flagellation du Christ. Et moi alors, mon sentiment de culpabilité animale réagit à chaque flagellation. De tout ce que j'ai fait... En responsable non coupable et en responsable coupable par rapport à tout ce qui relève de la chair. Et tout ça, ça revient. Alors, vous comprenez, c'est ça. Et ça, c'est important. Évidemment, une fois que vous l'avez fait, attention, il faut faire tranquillement. Une fois que vous l'avez fait jusqu'à l'âge de 10 ans, bon, vous pouvez reprendre la fois suivante. Comme ça, vous allez plus vite. Vous faites vos deux premiers jours au Salut Marie en recommençant toujours, en reprenant toujours à partir du départ. Hein. En prenant les deux premiers jours au Salut Marie jusqu'à l'âge de 10 ans et vous faites les suivantes jusqu'à l'âge de 20 ans, par exemple. Il faut toujours reprendre au départ. À chaque fois, des choses nouvelles apparaissent. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas à apparaître lorsque vous n'allez pas jusqu'à l'âge de 20 ans, parce qu'il y a des choses dont l'analogué accidentel ne se révèle qu'à l'âge de 15 ans, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la parturition, par exemple. Donc, des choses nouvelles vont apparaître dans la première période, hein, lorsque vous allez prendre une anamnèse des mystères du rosaire, par le mystère du rosaire, qui va envelopper toute une période supérieure. Vous voyez bien, vous comprenez ce que je m'exprime mal, mais moi je le fais, mais j'ai du mal à expliquer. Et vous pouvez le faire pour vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est mal, vous pouvez le faire pour lui. Pas besoin qu'il soit là, d'ailleurs. Et c'est ça, je pense, l'accompagnement. Quand vous priez pour lui, vous priez pour lui. Quelqu'un est en train de mourir, par exemple, il est athée jusqu'à la gare, etc. Vous priez pour lui. Vous le reprenez, chaque jour, vous salue Marie, année après année, jusqu'à l'âge de 92 ans, il est en train d'agoniser dans chaque mystère. Je peux vous dire que ça, j'ai expérimenté plusieurs fois. Que quelqu'un était coincé complètement. Vous faites ça. Et vous apprenez qu'au moment où vous l'avez fait, il a eu son visage s'est transfiguré dans la beauté, dans la splendeur. Tout s'était coincé. On peut le faire pour quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un vient de mourir et que c'est trop tard, vous pouvez le faire encore. Pour lui, cette espèce d'anamnèse. Parce qu'on est des rédempteurs. Oui.
Le chemin de croix de l'innocence divine, c'est le même.
C'est le même principe. C'est le même principe. Tu as un chemin de croix silencieux, un chemin de croix donc plus. C'est un peu le même principe. Le point de vue de l'innocence divine, attention, premièrement, c'est une révélation privée. Donc il faut faire attention parce que dès qu'il s'agit d'une révélation privée, il faut faire attention parce que le récepteur met toujours une partie de son travail. Il y a beaucoup de choses qui viennent du récepteur dans une révélation privée. On considère, en moyenne, on le disait tout à l'heure au petit déjeuner, à peu près 30% de paroles qui viennent d'une révélation privée viennent du récepteur, c'est-à-dire du bonhomme. Donc il faut recevoir une révélation privée parce que Dieu a le droit de parler. Mais il faut en même temps ne pas le rentrer matériellement dans ce que dit une révélation privée. Il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas suivre aveuglément une révélation privée. Il faut revenir à l'écriture, à la foi. Hein? Évidemment, on est éveillé grâce à la révélation privée. Mais la révélation privée ne peut pas être une règle de vie. Faire une règle de vie à partir d'une révélation privée, c'est très grave. Et donc, évidemment, on est éveillé. D'ailleurs, je te l'avoue, que c'est à cause de cette histoire de révélation de l'innocence divine à laquelle tu fais allusion, hein, que nous faisons ce travail cette année sur la mémoire ontologique. Hein. Parce qu'elle dit, attention, c'est ça, revenir à la mémoire initiale. Et donc, nous faisons ce travail, mais nous faisons un travail de philosophie réaliste et un travail de théologie doctrinale pour vivre ça dans la foi, l'espérance, la charité. Parce que si on le vit à partir de la révélation privée, ça devient humain. Et ça devient une méthode.
Est-ce que là, c'est pas une méthode ?
Qui t'a dit que le rosaire, c'est une méthode ? Le rosaire n'est pas une méthode. Le rosaire, il te demande. Le rosaire, tu vis dans l'union avec Marie. C'est ça la foi consiste à vivre ce que Jésus a vécu. Or, Jésus a voulu vivre cette union totale avec l'Immaculée Conception. Donc je suis Jésus partout où il va. À partir du moment où je vis quelque chose qui relève de la mort et du péché, Jésus qui s'est fait mort pour moi sur la croix, il a voulu à cet instant-là ne faire qu'un avec elle. Le glaive te transpercera le cœur. Donc je dois suivre par Jésus dès que je vis quelque chose qui relève de la mort, ce qu'il a fait, et vivre tout ça, cela avec elle. Et je revis concrètement, à travers une anamnèse, je signale que l'anamnèse, ça appartient à la tradition de l'Église, à la tradition apostolique, confession générale, etc. L'anamnèse, c'est quelque chose de très ancien, c'est dans l'Écriture. Hein. Tu dois faire anamnèse, hein, c'est-à-dire que tu dois vraiment donner tes péchés, tes actes. Pas dire, ah, je suis pécheur, etc., que le Seigneur me pardonne. Non, non, les actes concrets. Ah, oui, oui. J'ai foutu une branlette à ma petite sœur. Un jour, j'étais tout seul parce que je voulais me venger. Elle avait toujours les bonbons et moi, rien du tout. Ben, c'est sûr. Il faut dire les actes, quoi, les actes. Les actes que j'ai posés. Un truc vraiment pas glorieux, quoi. Parce que dire je suis pécheur, c'est glorieux, très glorieux. Pêcheur, moi. Mais t'as fait quoi exactement ? Oh, vous savez, mon père, je peux pas trop vous le dire parce que je veux pas trop non plus. Ne vous inquiétez pas. Eh oui, c'est les actes qui comptent. Dès que on vit au niveau, on est conscient des actes. Alors à ce moment-là, oh tiens, vous pouvez être sûr, tiens, vous avez commencé à rentrer dans la maturité dès que vous commencez à avoir tel acte. Bon, je crois que ça fait partie de la doctrine, ça fait partie de toute la doctrine spirituelle de l'Église, de vivre l'anamnèse. Aujourd'hui, à part de le vivre avec l'Immaculée Conception en vivant du rosaire, je crois que je ne rajoute rien. Mais c'est vrai qu'on se réveille grâce à... C'est à ça que ça sert, les prophètes, c'est à ça que ça sert... L'Esprit Saint a le droit de parler aujourd'hui, quand même, peu cher. Refuser complètement les révélations privées, c'est aberrant. Ça voudrait dire que Dieu n'a pas le droit de vivre, quoi. Il n'a pas le droit de faire pousser l'Église. Il n'a pas le droit de. Mais il a le droit, quand même. Jésus, il a le droit de reparler. Eh bien, pareil. Eh oui. Alors, mais oui, mais on est dans le Nouveau Testament. Alors, certains gens disent la révélation est close avec le Christ, terminé, plus de prophète. Mais pardon, c'est pas vrai. Bon, mais ce sont des charismes. Révélation privée, d'accord. Dieu parle, je le reçois, mais je le reçois en revenant à l'initial, la croix de Jésus, la résurrection de Jésus, l'Immaculée au pied de la croix, le mystère de l'Assomption, en revenant à la foi et en revivant à partir de là. Parce que les prophètes du Nouveau Testament nous ramènent à la fin des temps. Et la fin des temps, c'est au moment où Jésus meurt et ressuscite. C'était il y a 2000 ans. Les prophètes de l'Ancien Testament nous amènent les gens vers l'incarnation du Messie, sa rédemption, sa résurrection, Isaïe le prophète, etc. Et les prophètes du Nouveau Testament nous ramènent à la mort et à la résurrection du Christ, vécu dans le collège, dans le corps immaculé de Marie, dans le corps immaculé du corps apostolique initial. Vous voyez bien ? Je crois que c'est normal, c'est très important ça. Il faut revenir toujours à la racine qui est le sommet de la fin des temps. C'est le Christ mort et ressuscité. C'est ça la montagne sur laquelle Jésus se place pour dire les béatitudes. Voilà. Alors je crois que ça, là, on rajoute bien. C'est là qu'il faut donc des nuances. Hein, mettre des nuances. Bon, moi, je vous propose ça quand vous priez pour quelqu'un qui est blessé. C'est voilà, l'immense charité que vous pouvez avoir pour lui, c'est ça. C'est lui si coincé. Faites ça, je crois que c'est bien.
Est-ce qu'on ne peut pas faire exactement la même chose en lisant la Sainte Écriture ?
Oui, tu peux éventuellement le faire si tu sens que... oui.
Par exemple, en lisant la Genèse ou en lisant l'Évangile de Saint Jean ou l'Apocalypse.
Absolument, absolument. Absolument, mais si tu veux, comme la Vierge a donné quand même à Saint Dominique ce moyen du rosaire, que les papes successivement disent que c'est l'arme la plus puissante hein, contre les effets du mal. Bon, je préfère prendre les 15 mystères du rosaire, personnellement. Bon, mais je peux prendre la parole de Dieu, mais je suppose que la parole de Dieu aura un effet qui va concerner ce que la parole de Dieu concerne. Bon, la parole de Dieu concerne quoi ? Elle concerne, j'allais dire, la nourriture de notre foi. Donc,
les psaumes, par exemple, si on lit les 153 psaumes dans cette
épreuve,
parce qu'il paraît qu'il n'y a pas un seul psaume qui ne correspond pas à...
Tout à fait, absolument. C'est ce que faisait Saint Patrick. Saint Patrick, que nous allons fêter bientôt, n'est-ce pas, le 7 mars Hop, on y arrive. Et qu'est-ce qu'il était extraordinaire, ce garçon. Il évangélisait, il faisait l'apostolat, et la nuit tombante, il se faisait aider par ses deux diacres. Il allait sur la petite montagne de l'Arnaque, vous savez, là, et il y a un torrent qui coule. Il n'est pas drôle, ce torrent, d'ailleurs. À un certain moment, il y a des endroits où vous vous mettez, et il se mettait dedans. C'était froid. Comme il se mettait dedans, dans le torrent, qui était glacé la nuit, de manière à rester éveillé, parce qu'il était épuisé. Et il y avait des torches grâce aux deux diacres, et il lisait les 150 psaumes. Ça lui mettait à peu près 3 ou 4 heures. Et il faisait ça toutes les nuits. Ensuite, il faisait un certain nombre d'assaises, je ne me rappelle plus lesquelles, je vous les dirai peut-être la prochaine fois, parce que j'arriverai en mars, je crois, la prochaine fois, donc ça c'est marrant. Mais ça c'est sûr qu'il le faisait parce qu'il voulait reprendre toutes les personnes qu'il avait vues dans les 150 psaumes. Donc ce que tu dis, c'est la spiritualité de Saint Patrick. Bon. Effectivement, il reprend tous les péchés qu'il a, des personnes qu'il a rencontrées, chacune des âmes, il les reportait, il les faisait traverser, les 150 psaumes. Je suis transformé en chien muet. Non, c'est vrai. Et c'est le travail de l'apôtre. L'apôtre, ce que je disais tout à l'heure peut-être dans le sermon, l'apôtre, c'est pas celui qui fait blablabla, blablabla, qui cause. Il évangélise dans la vie intérieure lorsqu'il reprend dans cette demeure de paix et qu'il accueille les multitudes dans l'union à Dieu, dans son innocence apostolique, voyez, dans cette sainteté. Encore rédempteur, c'est très intérieur l'apostolat, parce que si vous causez à quelqu'un et que vous ne priez pas jusqu'à la racine de lui-même, de vous-même et de ce qui s'est passé dans la rédemption entre l'Immaculé et le Christ, si vous n'associez pas ça très intérieurement dans la durée, en persévérant et dans les actes, ce que vous avez dit pour convertir quelqu'un ne sert à rien. À rien!
Alors, combien de fois
faut le dire? De quoi? Qu'il faut dire ça? Oh ben, pour vous... il faut parcourir chaque année. Il faut parcourir chaque année de ma vie avec l'Immaculée.
Ah ben pour moi, non mais si c'est pour vous.
Ben pour les autres, pareil. Essayez de prendre le point de vue de l'année. Mais sinon, vous pouvez prendre des tranches. Hein? Ça aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, d'abord la conception, et de la conception jusqu'à la naissance. D'abord. Sûrement. Ça, il faut respecter. Ensuite, la période de la constitution du sentiment de culpabilité. Sûrement. 2-3 ans. Ensuite, la période de l'apparition de la conscience de culpabilité, la responsabilité coupable. Sûrement. Ça, je crois qu'il faut faire au moins cette séparation. Si vous ne faites pas année après année, au moins ça. Puis, l'âge de raison, ça c'est sûr, 7 jusqu'à 11 ans. Enfin, ça dépend pour les garçons, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ça dépend. L'âge de raison, cette période de la loi éternelle qui apparaît, que nous avons regardé en détail dans son apparition l'année dernière, en éthique. Rappelez. Ça, c'est très important, ça. Ça, c'est très, très, très important pour la conscience morale. Hein. Donc, je vous réfère aux cassettes que, justement, Charlotte met à votre disposition. Si vous voulez lui commander. Ça, sûrement, il faut respecter ça. Puis, la pré-adolescence, sûrement. L'adolescence, sûrement. La puberté, sûrement. Et la troisième épreuve, sûrement aussi. La préparation à l'engagement responsable dans un état de vie. Ça, sûrement. Donc, vous avez... les trois épreuves, hein, de 7 à 10 ans, de 11 à 17 ans, et puis de 20 à 40 ans. C'est variable, hein. Il y a des gens... Les trois épreuves... Non, écoutez, on a traité cette question-là en février, mars, avril et mai, le samedi, en éthique, sur la question de l'éthique en fonction de notre conscience morale, en fonction des trois épreuves. C'est un truc à savoir et c'est très important. C'est l'éthique concrète, si vous voulez. C'est l'éthique de l'amour, comment notre amour va être une qualité humaine parfaite, et si on le reprend à partir des trois épreuves. L'épreuve, donc, de l'enfance, l'épreuve de la conscience d'amour, de la loi éternelle, l'épreuve, donc, de l'adolescence, l'épreuve de la responsabilité dans un engagement à l'état de vie, l'épreuve d'adulte. Le passage à l'état adulte. Il y a des gens qui passent à l'état adulte à l'âge de 15 ans. Hein. Donc, quelques d'autres, la plupart du temps, aujourd'hui, plutôt 50 ans. C'est vrai. Donc, il faut saisir ces trois épreuves. Je pense que c'est très important pour une espèce de prise de conscience. Alors, certaines personnes le font à plusieurs en disant, voilà, on va prier ensemble. Ce qu'on faisait chez nous, chez les charismatiques, quand, à la communauté du Phare, je me rappelle, en 73, 14, ben, quand il y avait un nouveau paumé qui arrivait, on se mettait avec Jojo, avec Sarah, avec Dodo et tout, en prière. Ouais, c'était hippie, vous savez, il y avait des fleurs et tout, Jésus et tout. Et on restait, par exemple, pendant 2-3 heures avec quelqu'un qui pleurait. Attends, on va prier pour toi, on priait. On le reprenait aussi toute sa vie, en Jésus et tout. Et puis, hop, il y en avait un qui dit, oh, dis donc, quand t'avais 4 ans, t'aurais pas eu un petit problème avec... Je te vois avec du sang, etc. Qui couille de l'œil, alors que tu as 4 ans et tout. Alors tu dis, ah bah oui, c'est vrai, j'ai eu un coup de pied dans la figure par mon père sous la table, etc. Ah bon, très bien, on va prier pour ça. Oui, merci Seigneur pour cette blessure, merci. Et on le faisait à plusieurs, Et puis il y en avait un qui avait une lumière sur ce qui lui était arrivé, une autre lumière, etc. Au bout de 3-4 heures, on avait prié pour lui. Il respirait. C'était intuitif, si vous voulez. C'était les débuts du renouveau charismatique. C'était le Jesus Revolution. Hein. C'était comme ça. Jesus Revolution, c'était ça. C'était magnifique. C'était quelque chose de très, très extraordinaire.
La communauté du phare, je ne sais pas, je ne vous en ai jamais beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup marqué, moi, pendant 3 ans. Ces expériences s'appelaient les enfants du pardon. J'étais le seul à ne jamais passer dans la drogue. C'est tous des freaks, des hippies, you know, des années 60, pas des années 70-80, qui sont de la pelure de carottes. Mais ceux-là, c'était des purs. C'était des purs, c'était beau, vous savez, c'est les vrais. Dans les années 70, ils avaient 40 ans. Ils avaient 40 ans dans les années 70, hein. On appelait ça la noblesse de la route, tu vois, les freaks. Les freaky. Les autres, c'était des junkies, tu vois. C'était magnifique, c'était extraordinaire, c'était pureté extraordinaire. Alors, on accueillait les enfants du pardon. Moi, j'étais au milieu de tout ça. Elle dit, pourquoi vous faites ça? Je disais, ah, oh, toi, t'es trop straight, toi, t'es très straight. C'était moi, j'étais de la bourgeoisie. J'avais débarqué là-dedans, cette communauté, de manière complètement bizarre. J'avais un pantalon, un gilet, un costume 3 pièces. Eux, ils étaient là, que c'est. Ah, dis donc, t'as vu? Comment tu t'appelles, hein? Le monstre, tu vois, qui débarque. Ouais, je m'appelle Patrick. Ah, ouais, Patrick. Ah, oh, super, Patrick. Ah, ouais, ouais. Voilà. C'était super. Bon, j'ai vite enlevé le costume 3 pièces. Hein.